J'aimerais terminer ce matin cette série de messages sur la guérison divine en parlant de comment surmonter la dépression. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. J'ai regardé dans la version Parole vivante, qui traduit, qui est une transcription de la parole de Dieu, qui donc traduit ainsi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos, vous tous qui êtes déprimés. » C'est un peu le sens de ce mot original, traduit dans notre version par fatigué, mais c'est une fatigue, pas simplement physique dont il est question dans ce texte, c'est une fatigue morale, une fatigue de quelqu'un qui ploie sous une sorte de déprime, de dépression, d'abattement qui est profond. Alors, c'est traduit aussi « être las », »,« être épuisé ». Étymologiquement, ce mot fait référence à comme recevoir un coup de marteau, un coup de massue, donc, qui indique que la personne est abattue, profondément abattue, blessée. Bien sûr, ça peut faire référence à une fatigue déjà physique, on va le voir, parce que la dépression peut agir sur le corps et nous rendre plus faibles. Mais on voit que ce terme était utilisé, en tout cas, à l'époque de Jésus, pour parler de dépression, pour parler de déprime, de profond découragement. Alors, qu'est-ce que la dépression, si on peut le définir? C'est une authentique maladie de l'âme. C'est une maladie psychologique reconnue par les médecins du monde entier, dont nous n'avons pas de médicaments appropriés pour soigner, mais nous savons que c'est une maladie qui fait des dégâts importants dans les soubassements de l'âme, jusqu'à abattre une personne entièrement et la rendre inopérante. Elle n'a plus envie de rien faire. Elle va passer beaucoup de temps à dormir et elle va être souvent sous des traitements qui vont la faire marcher au ralenti. Alors peut-être vous avez connu des personnes dépressives dans votre entourage ou vous-même vous êtes passé par cette maladie. Selon les médecins, on estime que la dépression peut arriver à tout le monde et à tous les âges de la vie. Selon des statistiques, on estime qu'une personne sur 10 sera touchée par la dépression dans sa vie. C'est même devenu un problème de santé majeur. À cause de la fréquence des dépressions et de la difficulté à soigner par des traitements, et puis la souffrance que ça génère pour l'entourage. La dépression, on le voit aussi au niveau des statistiques, ça touche deux fois plus les femmes que les hommes. Et pour les adolescents, la dépression est responsable de 50 à 60% des tentatives de suicide. Je regardais un article que j'ai conservé pour vous montrer que le suicide touche les enfants aussi, la jeunesse. Cet article dit Bruno, 11 ans, surpris dans un supermarché en train de voler un jouet, a été reconduit chez lui par les policiers. L'appartement est vide car sa mère est encore au travail et son père est parti depuis longtemps. Plein de honte, il se jette du 7e étage. Béatrice, violentée par son beau-père, a pris une trop forte dose de médicaments pour en finir avec une vie qui la dégoûte. Jacques, en échec scolaire, ce sont tous des adolescents. Il avait peur de l'avenir. Il n'osait en parler à personne de ses angoisses et il s'est pendu. Je veux disparaître de ce monde que je ne comprends pas. Je vous aime. Tel est le dernier message que Pierre, élève brillant, a laissé à ses parents. Le suicide en France touche environ 150 000 personnes par année et 12 000 en meurent, c'est-à-dire 33 personnes par jour partent dans l'éternité de cette manière. c'est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Et la deuxième chez les adolescents, après les accidents de la route. Alors pourquoi ce mal de vivre chez les gens? Quelquefois ils disent « la vie est trop moche, il n'y a pas d'avenir, ils ne supportent plus les conflits, les divorces ou les difficultés liées à la crise et au chômage. Certains portent un lourd fardeau de culpabilité résultant d'un comportement immoral. Cette détresse est peut-être celle de ton meilleur ami ou la tienne. Quelqu'un peut-il comprendre ?» Alors, il finit avec ce point d'interrogation. Quelqu'un peut-il comprendre ? Est-ce que nous pouvons comprendre des choses pareilles qui nous échappent, qui sont peut-être au-delà de la compréhension humaine ? Mais en tout cas, nous savons que Dieu a pu apporter une solution, un remède à des personnes sans espoir, qui n'ont plus goût à la vie, qui ne voient qu'en la mort qu'une solution pour abréger leur souffrance. Et en réalité, c'est une erreur, c'est un mensonge du diable. Nous savons que la vie, c'est un cadeau de Dieu, c'est précieux. Mais par la dépression, par le découragement, le diable tente de détruire ainsi tout ce que bien, Dieu a voulu implanter, semer dans les cœurs et dans les vies. Alors dans notre société, c'est vrai que c'est la course au bonheur par les plaisirs de la vie. Et souvent, on cherche dans les boissons, dans la drogue, dans toutes ces choses-là, et on trouve que le malheur. J'aimerais prendre un exemple de la parole de Dieu pour vous montrer cela. C'est dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1er. C'est le prophète Élie qui a connu un temps de profond découragement. Moi, je ne dirais pas que c'est tout à fait une dépression, mais en tout cas, il y a plusieurs éléments dans le texte qui le montrent. 1 Roi, chapitre 19, verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait là à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. C'est un passage intéressant parce qu'il nous montre l'attitude de quelqu'un qui passe par un profond découragement. On va en tirer quelques aspects pour montrer que la dépression, c'est un peu ces phénomènes, mais permanents. Alors qu'Élie va en sortir par la grâce de Dieu. Alors d'abord, il y a un événement déclencheur qui va faire que cet homme va entrer dans ce découragement. Élie entend les paroles de Jézabel, qui est la reine du pays avec Acab. Et comme il y a eu une grande bénédiction dans le chapitre précédent, les faux prophètes ont été exterminés. Eh bien, Jézabel veut tuer le serviteur de Dieu, Élie. Et quand il entend cette parole, ça fait comme un choc dans son cœur, alors que pourtant, il a la foi, c'est un croyant, mais il a été bouleversé. Mais certainement, au fond de nous-mêmes, même celui qui a le plus de foi au milieu de nous ce matin, nous ne sommes pas parfaits et nous avons tous des failles, quelque part dans notre cœur, dans notre esprit, qui fait qu'une parole, un mot, une image peut nous déstabiliser et même nous faire tomber dans un profond découragement. Voir si ça va plus loin, ça peut tomber jusqu'à la dépression. Donc pour Élie, c'est simplement cette parole qui a été utilisée par le diable pour l'atteindre dans peut-être une faille de son cœur. Cette parole y est rentrée avec tout son lot d'images, de découragement, de mort. Il s'est vu mort certainement, il s'est vu pourchasser et il a préféré fuir maintenant. Alors la dépression, c'est ça, ça a toujours une origine d'un événement qui va bouleverser la personne. Ça peut être un deuil, Ça peut être une période de chômage dont on ne sort pas, ça peut être une accumulation de soucis, ça peut être un examen qu'on n'arrive pas, on ne s'en sort pas et ça nous décourage. Ça peut être un accident, une maladie incurable, etc. Une mauvaise nouvelle qui survient et qui nous abat profondément. Ça peut être une nouvelle, un imprévu. Et à partir de là, comme on n'arrive pas à gérer l'information, comme Élie, il reçoit, vous voyez au verset 3, c'est dit « Élie, voyant cela ». Ce sont des paroles, mais il s'en est créé une image mentale. Et dans son esprit, il voit les choses d'une manière sombre. Et il dit « Ma mort est certaine » et il peut la visualiser. C'est donc un fort événement qui va bousculer la vie d'Élie. Et là, il est rentré dans un processus qui va l'attirer vers le bas. Le deuxième élément après cet événement, c'est la fuite. Il va partir, au verset 3, pour sauver sa vie. Donc c'est la fuite en avant, la fuite de la difficulté. Il ne se sent pas la force de résister à Jézabel. Mais j'aimerais dire que ce matin, nous n'avons pas forcément beaucoup de force, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, comme Paul dit, malgré sa faiblesse, quand je suis faible, il dit, c'est alors que je suis fort. Et il reçoit de Dieu que ce n'est pas par notre force, par notre puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais là, Élie se sent diminué, il sent sa force s'affaiblir et il préfère fuir. Pourtant, on a vu son attitude victorieuse quelque temps auparavant. Il pouvait tenir tête à 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Qui d'entre nous oserait, qui d'entre nous pourrait, mais il a osé. Il a pu, il était dans la foi, il était dans la vigueur, il était sous l'onction. Et on dirait que ce n'est plus le même homme. Pourtant, il croit dans le même Dieu. Il a toujours la foi, mais en même temps, il est bousculé dans son être intérieur. Et vous voyez, c'est la nature humaine. On peut connaître des sommets, on peut connaître des moments d'abondance, et puis on peut connaître des creux, on peut connaître des moments de découragement. C'est notre âme qui est ainsi faite. Elle a une certaine fragilité. Alors il n'arrive plus à réagir et il va se laisser couler et il va entrer dans une spirale de du découragement, voire pour certains de la dépression. J'ai pensé à ce texte de David, au psaume 38, lui qui exprime beaucoup de passages à vide. Il dit « Je suis courbé, abattu au dernier point ». Vous vous rappelez que David, c'est celui qui a quand même tué le géant Goliath avec une seule pierre. Et c'est pour montrer les contrastes, mais c'est le même homme. Et c'est le même homme dans une situation difficile. Il est abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Et pourtant, il connaît Dieu. Il sait que Dieu peut le sortir de là. Il sait que Dieu est tout-puissant. Mais il passe par cette phase, par ce moment de découragement. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Et nous avons tous fait cette expérience de passer par le découragement. Comme Élie, comme David, comme n'importe quel croyant peut le connaître. Alors si on va plus loin et qu'on parle de cette maladie de la dépression qui va plus loin que le découragement, eh bien on retrouve l'absence d'envie, la personne n'a plus goût à rien, elle n'a plus envie de travailler, elle n'a plus envie de sortir. Elle n'a plus de passion. Peut-être avant, elle aimait sortir, par exemple, aller à la pêche. Et maintenant, dans la dépression, elle n'a plus envie. Elle voit les cannes à pêche, ça ne lui dit plus. Elle n'a plus le désir de ce qui l'a motivée avant. Tout cela a disparu à cause de cette maladie de dépression. Elle est rentrée dans une grande lassitude. Alors la lassitude, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, c'est une fatigue inexplicable et puis le fait d'avoir envie de rien faire. On ne sait pas pourquoi. Mais on n'a pas envie de rien, de faire quelque chose. Alors, on essaye de dormir pour récupérer, mais on ne récupère pas. Pourquoi ? Parce que dans le sommeil, encore la nuit, on est pourchassé dans nos pensées. Alors, la dépression, c'est cela, fuir dans ses pensées, se recroqueviller sur soi-même. Je continue avec Élie. Un peu plus loin, il va chercher la solitude. Il est dit la fin du verset 3, « Il laissa là son serviteur à Beersheba. » Il laissa son serviteur et lui, il va continuer tout seul dans le désert. C'est-à-dire, c'est une volonté de s'isoler des autres. et de vivre seul parce qu'on a honte, parce qu'on est malheureux et on ne veut pas que les autres bien nous voient dans cette situation. C'est un petit peu l'image de la personne découragée. Elle va chercher l'isolement, se recroqueviller dans sa tristesse. En fait, elle cherche un lieu où elle sera seule. Au psaume 102, j'ai noté encore une expression qui va dans le même sens. « Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire. » Solitaire sur un toit. Voilà. Solitaire, c'est-à-dire il s'est isolé, il s'est mis de côté. Mais regardez qu'il a perdu l'appétit. C'est aussi une caractéristique de quelqu'un qui est dépressif. Il a perdu l'envie de se nourrir. J'oublie de manger mon pain, je n'ai plus de sommeil. On perd le sommeil, surtout le sommeil réparateur. On peut dormir très peu, mais avoir un bon sommeil réparateur. Mais là, on dort, mais on n'est pas restauré. Et ça génère un repli sur soi-même, ça génère une fuite. Peut-être par la télévision, pour occuper ses journées, on reste cloîtré chez soi. Et on se centre sur soi-même, parce que chez le dépressif, il y a cette forme d'égoïsme, d'être centré sur soi-même et sur son problème, qui fait qu'il ne s'intéresse pas aux autres, ni à ce qui se passe en dehors. Un petit peu plus loin, et c'est toujours si on va plus loin dans le phénomène de la dépression, il va demander maintenant la mort. Il s'est isolé, il s'est fait une image mentale dévalorisée. Maintenant, il dit à Dieu, « Seigneur, reprends-moi, prends mon âme. » Je ne suis pas meilleur que mes pères. Au verset 4. Élie est seul, il est abattu, il demande la mort. Et ça, c'est encore une fausse idée que de croire que la mort, c'est préférable à la vie. En tout cas, ce n'était pas le plan de Dieu ici pour son serviteur. Il demande la mort parce qu'il est découragé. Il demande la mort parce qu'il en a assez d'avoir des problèmes. Et il se dit, si je meurs, au moins j'aurai plus de problèmes. Et on retrouve cette attitude chez pas mal de croyants. Je pense à Jonas, par exemple, dans le verset chapitre 4, verset 8. À un moment donné, Jonas demande aussi la mort à Dieu. Et on le trouve régulièrement dans la parole. Mais en tout cas, c'est Dieu qui reprendra notre âme quand il le désire. Et ça viendra quand lui... Peut-être à ce moment-là où ça va venir, on n'aura pas tellement envie de partir, mais c'est lui qui va nous la reprendre. Et quelquefois, on a envie qu'il nous la reprenne, puis il nous laisse. En fait, notre vie appartient à Dieu. Et David écrit, « Sur ton livre sont écrits tous les jours qui m'ont été attribués. » Donc, nous avons un certain nombre de jours que Dieu nous attribue, qu'il nous accorde, et c'est pendant ces jours-là qu'il nous faut le servir et faire sa volonté. Alors, on peut dire que c'est normal, c'est l'aboutissement logique de son découragement. Il a eu cette image mentale qui l'a effrayé, il s'est isolé dans un désert pour être seul, il n'a plus le goût à rien. Logique, en bout du compte, il demande maintenant la mort. C'est comme une spirale qui va toujours vers le négatif. Dépressif et profondément pessimiste, il ne voit peut-être... la petite bonne nouvelle qui pourrait être encourageante. Il ne voit pas l'élément positif qui pourrait le fortifier et de dire « Ah, ben là, je peux m'accrocher à quelque chose. » Non, il reste focalisé sur les choses impossibles. C'est assez, j'en ai assez de la vie, je veux mourir. Et voilà, il est prêt à partir dans l'éternité. Le cinquième élément que je vois dans ce passage, c'est la dévalorisation qu'il a sur lui-même en disant « Mais je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il finit par considérer sa misère et se dire « De toute façon, je ne vaux rien. » C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans un discours d'une personne dépressive, une dévalorisation en disant « Je n'en vaux pas la peine, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, je ne serai jamais heureux. » C'est une perte de confiance en soi qui est exprimée par des paroles négatives. Alors, ça crée un doute, ça crée un sentiment de culpabilité. Et puis, la personne dépressive pense que tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute et elle est ainsi malheureuse et elle s'enferme dans son malheur. Alors, bien sûr, pour Élie, vu la durée de son découragement, je ne pense pas qu'on peut parler de dépression. En tout cas, on peut parler de découragement, de profond découragement. Mais la dépression, c'est tous ces symptômes sur une durée assez longue. Et surtout, avec un phénomène d'amplification avec le temps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu voit son serviteur qui souffre. Eh bien, il va intervenir à partir du verset 5 pour le relever. Pourquoi ? Ça, c'est la deuxième partie maintenant. C'est qu'il nous faut une intervention extérieure. C'est-à-dire, quand nous sommes profondément découragés comme cela, on ne peut pas s'en sortir tout seul, en essayant de s'encourager par nos propres volontés. Il nous faut une aide. Et cette aide va venir sous la forme d'un ange. Cet ange, c'est un envoyé de Dieu qui va donner à Élie non seulement des paroles réconfortantes, mais aussi de la nourriture, des éléments avec lesquels il va pouvoir remonter. Alors, quelles sont les possibilités d'intervention que nous avons, nous, aujourd'hui ? Bien sûr, quelqu'un qui est dépressif, la première possibilité, c'est la médecine. Et nous savons que la médecine a des moyens d'aider les dépressifs, comme les antidépresseurs, par exemple. Les antidépresseurs permettent d'agir sur le cerveau pour réguler les neurotransmetteurs et puis relance l'activité cérébrale et aide la personne dans son moment difficile. Mais ça n'est pas une solution durable, ça n'est pas une solution à long terme. Il ne faut pas s'enfermer dans cette médecine avec des antidépresseurs en permanence. Une deuxième possibilité de secours, c'est l'entourage, c'est-à-dire la famille du malade, soit son conjoint, ses parents, ses amis qui vont être auprès de lui pour lui prodiguer de l'affection, de l'amour, l'aider. Et tout cela va être une source d'encouragement qui va lui permettre aussi de remonter la pente. Mais c'est très difficile d'encourager quelqu'un qui est dépressif. C'est même tellement difficile que souvent, l'entourage est affecté plutôt que d'aider la personne. L'entourage est un petit peu découragé lui-même, affecté par ce phénomène qui souvent dépasse beaucoup de monde. Et la troisième possibilité, c'est le secours de Dieu, celui que nous voyons dans la parole ici, le secours d'un ange, le secours de Dieu, le secours du Seigneur Jésus qui va venir nous apporter la nourriture. Je regarde cette nourriture, il apporte au verset 6 un gâteau cuit sur des pierres chauffées et puis une cruche d'eau. Cette nourriture va être un élément fortifiant. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture que l'ange lui apporte, c'est la nourriture de Dieu, c'est celle dont nous avons besoin pour notre âme. Dieu intervient donc en l'encourageant, en lui apportant la nourriture. Moi, ça me fait penser à la parole de Dieu, cette nourriture qui va nous fortifier, qui va nous donner d'avancer malgré les difficultés. Mais l'ange lui donne un défi. Il ne lui apporte pas simplement la nourriture et la boisson, on lui dit maintenant, voilà, il lui dit « lève-toi ». Fais ton pas, fais le pas de la foi, mange, prends les choses en main. Et donc, il fait appel à sa volonté pour qu'il fasse aussi sa part. Et c'est un petit peu toute la difficulté chez le dépressif parce que, en fait, il est souvent incapable de faire quelque chose. Il se sent trop dévalorisé et même parfois, ça peut être un piège parce que quelqu'un qui est dépressif se réfugie dans sa dépression et ne veut pas faire sa part parce que d'un côté il a envie d'en sortir, d'un côté il n'a pas envie parce que ça le maintient dans une situation où des gens s'intéressent à lui et il sent une certaine aide et c'est un piège dans lequel il se trouve. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'Élie, il a fallu y revenir à deux fois parce que la première fois, bien sûr, il y avait l'ange qui l'encourage, mais la Bible dit « il mangea ». Il but, mais il se recoucha. Et c'est difficile d'amener quelqu'un à sortir de cette position quand on est complètement abattu, découragé. Il a bien pris la nourriture, il a bien bu cette eau, mais il n'est pas encore assez ferme. Et c'est là qu'il faut persévérer, encourager cette personne, aller faire un pas de plus et être à ses côtés. C'est ce que va faire l'ange. Il va à nouveau l'inviter à reprendre de la nourriture et jusqu'à ce qu'il puisse reprendre la route. Alors, qui peut restaurer une âme atteinte par la dépression ? On a vu que, bien sûr, la médecine existe, malheureusement, reste assez limitée, l'entourage. Et là, je consultais quelques spécialistes, vous savez, des psychiatres qui s'occupent vraiment des dépressifs profonds. Et eux, ils admettent qu'il n'y a pas de possibilité, en tout cas sur le plan médical, de guérir un dépressif. Par exemple, un psychiatre dit ceci, « La dépression est une expérience dont on ne reviendra jamais comme avant. Il y a eu atteinte du fonctionnement psychique, du sujet de la personnalité. Pour parler de guérison, il faudrait être capable de modifier en profondeur son propre fonctionnement. » Alors il reconnaît ainsi que pour parler de guérison, il faudrait avoir des capacités qui dépassent le cadre de la médecine. C'est pourquoi nous avons recours à la prière et à Dieu qui est capable, lui, de travailler justement en profondeur et de restaurer une âme qui est blessée. Un autre psychiatre explique « La psychothérapie ne permettra jamais d'effacer ou de supprimer les conflits qui ont existé ou qui continuent à exister, mais leur influence sera moindre. » Donc on voit que, bien sûr, la science a ses possibilités, et nous l'avons dit, c'est une bonne chose de pouvoir aider les autres. Mais en même temps, on voit bien que pour guérir l'âme blessée, il va falloir plus. Il va falloir une aide spirituelle, une aide qui vient de Dieu, une aide que seul Jésus peut apporter. Dieu restaure les cœurs brisés, il soulage ceux qui sont abattus et même il guérit ceux qui sont dépressifs. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et si bien que Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Il y a comme une régénération qui se produit, il y a comme une nouvelle naissance. « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est notre soutien, il nous transforme et lui, il peut intervenir dans cette âme qui est tellement parfois blessée, brisée, abattue et nous donner de reprendre la marche en s'appuyant sur sa parole. Au verset 8, « Je vois chez Élie un complet rétablissement. » Au verset 8, « Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » C'est un tel rétablissement qu'il peut même faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Il a été, ça c'est une intervention miraculeuse bien sûr, nous croyons dans le Dieu du miracle. Ce que Dieu a accompli pour Élie, il peut le faire pour chacun de nous. Alors prions le Seigneur, attendons-nous à sa grâce. Un ange est intervenu, il est intervenu deux fois. Pourquoi il est intervenu deux fois? Moi ça me montre que Dieu ne voulait pas que son serviteur reste dans son état de découragement. Si Dieu n'en avait rien à faire, il aurait laissé comme ça et il serait parti ailleurs. Mais Dieu nous aime, Dieu ne veut pas nous voir complètement abattus, découragés, déprimés. Il envoie un ange, eh bien ça ne fonctionne pas, eh bien il renvoie une deuxième fois. Et notre Dieu, il veut nous aider, il veut nous sortir de notre situation difficile. On le voit par exemple avec Jonas, ce serviteur récalcitrant qui avait bien reçu la direction pour aller prêcher à Ninive et qui est parti dans la direction de Tarsis. Donc la première fois, Dieu lui a donné une parole. Il a désobéi, il en a eu les conséquences, il a été avalé par le poisson, rejeté sur le rivage. Mais la Bible dit que l'Éternel parla une deuxième fois pour lui laisser une deuxième chance. Mais la deuxième parole, c'était la même que la première, il fallait qu'il aille là où Dieu l'envoyait. Pierre a eu aussi sa deuxième chance parce que Dieu l'aime. Dieu ne voulait pas qu'il reste dans son état de reniement. Il avait renié Jésus, il était découragé, il était dépité, abattu. Mais Jésus lui dit « Paix mes agneaux ». Il restaure cet homme et il va lui dire « Paix mes agneaux, paix mes brebis » et lui redonner d'aller de l'avant. Ainsi, nous voyons que Dieu veut pour nous la guérison. Et si, eh bien, nous n'avons pas pu en sortir une première fois, eh bien, persévérons. Vous voyez, on a un exemple même de Jésus qui persévère dans la prière avec cet homme pour qui était aveugle et qui l'a amené hors de la ville. Il a fait de la boue, il en a mis sur ses yeux et il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes, mais comme des arbres qui bougent. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a prié une deuxième fois. Et cette fois-ci, il voyait entièrement clair. Donc, nous ne devons pas nous décourager. Si nous sommes en marche, peut-être il y a eu une amélioration, eh bien, béni soit Dieu, parce que c'est déjà une grâce, mais nous voulons nous attendre à une entière guérison comme Élie l'a vécu. Il a été entièrement restauré. Il a eu une force surnaturelle même qui lui a permis de reprendre la marche. Alors je dirais qu'on peut passer par la dépression, on peut passer par le découragement, mais nous ne devons pas en tout cas nous y arrêter. Comme dit la parole, on traverse des fois la vallée de Baca, mais on ne reste pas dans la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, la vallée du découragement, la vallée de la tristesse. Mais bien sûr, on y passe tous. Le piège, le danger par lequel nous pouvons tomber, c'est de rester bloqué dans la vallée de Baca et puis de finir sa vie ici et de rester dans la dépression. Non, la Bible dit « nous traversons, mais nous ne restons pas ». Ainsi, Élie a connu le découragement, mais par la grâce de Dieu, il en est ressorti. Ça montre qu'il est de la même nature que nous, qu'il n'était pas supérieur, qu'il avait les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés, mais que nous avons aussi le même Dieu qu'Élie a connu, le Dieu des délivrances, le Dieu des guérisons, le Dieu des restaurations. Alors peut-être on va des fois régresser, peut-être on va se décourager, on va tomber, mais avec Dieu, en mettant notre main dans la sienne, on peut se relever et reprendre la route. Je dirais que c'est impossible à vue humaine, bien sûr, les médecins le reconnaissent et pourtant ce sont des spécialistes, mais à notre Dieu, tout est possible. C'est la parole de l'ange à Marie. Marie qui reçoit cette grande parole qu'elle va avoir un fils qui sera le sauveur du monde. Et elle dit, mais comment cela pourra-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui dit, mais aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Et si nous réalisons cela, alors nous dirons, c'est vrai, à point de vue humain, il n'y a pas d'issue. Nous ne voyons pas comment faire sortir cette personne de sa dépression, ou peut-être nous passons par là, nous ne voyons pas l'issue, mais nous dirons, avec Dieu, oui, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. La dépression, c'est un mal profond. La médecine, merci Seigneur, a fait des grands progrès, mais elle reste limitée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver l'issue totale ici, parce que l'âme est tellement complexe qu'il y a des paramètres que Dieu seul peut restaurer, des blessures du passé, des choses qu'on a vécues, qui nous ont traumatisés. Eh bien, Dieu va agir en profondeur pour les guérir, pour les restaurer. La dépression, ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas comme une bronchite ou une coupure qu'on va traiter. Il faut avoir d'autres outils. Il nous faut maintenant les soins du Seigneur. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Cette âme, elle a besoin d'autre chose que du pain, que de la nourriture, que du logement. Elle a besoin d'être fortifiée à l'intérieur. Et c'est vrai que là, eh bien, venez au Seigneur, venez dans la parole. Lui seul a les capacités de le faire. Pour l'âme, je dirais que pour qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée, il y a l'intervention de Dieu. C'est la voie par excellence, c'est le seul moyen d'être entièrement guéri. Jésus seul peut relever quelqu'un de déprimé. On va prier quelques instants, mais venez au Seigneur sans attendre. Ne rejetez pas sa main qu'il vous tend en vous disant, mon enfant, je connais ta souffrance, je connais ta difficulté, je sais combien de fois tu t'es égaré, mais il te tend la main encore une fois parce qu'il t'aime. Un peu comme pour Élie, une deuxième fois, parce qu'il ne veut pas te laisser dans cette situation de découragement, il ne veut pas te laisser dans ce profond abattement, mais il veut que tu sois entièrement guéri et relevé par sa grâce. Mais seul Dieu peut le faire. Réalise bien que seul Dieu peut le faire ce matin. Nous n'en avons pas le pouvoir, nous n'en avons pas les capacités, mais nous pouvons prier pour que dans la grâce de Dieu, le Seigneur fasse son œuvre. Merci encore pour ta parole. Nous avons confiance, Seigneur, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et toi seul peux soigner les cœurs brisés. Toi seul peux relever une personne qui est abattue. Et c'est pourquoi je te prie pour celui ou celle qui a besoin de ton intervention ce matin, afin que tu viennes poser ta main, afin qu'il y ait ce pas de foi, manger la parole, boire l'eau qui vient d'en haut et recevoir les instructions du Seigneur. Et je te prie de faire cette œuvre de restauration, Seigneur, dans les cœurs. Nous voulons faire notre part, nous voulons chercher ta face, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Mais je te prie pour celui ou celle qui n'arrive pas, qui n'a pas les moyens, qui ne s'en sort pas, mais qui s'attend à toi, Seigneur. Tu as des solutions et je te prie de le faire dans le nom de Jésus. Je te dis à toi toute la gloire. Amen. Amen.